Bonjour, je suis donc David Rosset, le pasteur de cette communauté. Et puis, c'est un privilège pour moi, une joie de pouvoir partager la parole qui, je l'espère, va nous inspirer pour ensuite vivre un temps tout à fait pratique, concret, de prière les uns pour les autres. Alors, je ne sais pas si vous avez vu derrière moi, je ne vois plus sur mon écran, si tu peux le mettre, c'est pas mal, ça ne marche pas, d'accord. Bon, alors je vais oublier. Alors, on va, ces prochaines semaines, nous intéresser plus précisément à un des aspects forts de la pensée de Martin Luther King. Vous avez vu qu'il y a des panneaux d'exposition, tout dans le rez-de-chaussée. Puis je crois que ça nous inspire aussi, nous, en tant que communauté, pour essayer d'aller dans cette direction-là. Et puis, un de ses livres majeurs, il a déjà un certain nombre d'années, on voit la couverture, mais il a eu un impact fort, puis il continue à avoir un impact fort, puis il s'appelle « La force d'aimer ». Alors, j'ai simplement repris ce titre, et puis on va un peu essayer de méditer qu'est-ce que ça signifie pour nous, pour notre communauté, « La force d'aimer ». Et pour ce faire, je vous invite à méditer un texte qu'on trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 16, et on va méditer les versets 19 à 31. Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. C'est une histoire que Jésus raconte aux personnes qui sont autour de lui. Et voilà ce qu'il raconte. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin. Donc il montrait qu'il est riche. Aujourd'hui, on dirait qu'il s'habille en Gucci. Et qui faisait chaque jour la fête et menait brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, nommé Lazare, était couché devant sa porte ou à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, enfin on a envie de dire, et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria, « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare trembler le bout de ses doigts dans l'eau pour nous rafraîchir la langue, pour me rafraîchir la langue, car je souffre de ces flammes. » Mais Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. » En plus de cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent pas le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. Le riche dit alors, « Je te demande, Père, d'envoyer dans la maison de mon père, je te demande d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » L'autre reprit, « Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » On va arrêter ici notre lecture. J'ai intitulé cette prédication « Si proche et si loin en même temps ». Et puis, je vais quand même m'intéresser à ça par rapport à cette parabole. Parce que c'est ce qui frappe de prime abord, c'est que Lazare, ce pauvre cuvert d'ulcères, et cet homme riche, on n'a pas le nom, on sait juste qu'il est riche, qu'il mène grande vie, finalement, ils sont très proches l'un de l'autre et très éloignés l'un de l'autre, sur terre comme au ciel dans le futur. C'est assez frappant de voir qu'ils se côtoient tous les jours, mais qu'en fait, ils ne sont pas du tout en relation. Ils sont même séparés l'un de l'autre. On nous dit qu'au ciel, il y a un gouffre immense, qu'il n'y a plus de relation possible. J'ai l'impression que même sur cette terre, déjà, il y a un gouffre immense entre ces deux personnes. Ils n'arrivent pas à se connecter. Alors, si on prend des illustrations, pour reprendre ce qui s'est passé il y a quelques dizaines d'années aux États-Unis, on avait cet exemple frappant dans les bus, dans des restaurants, dans plein de lieux publics, où blanc et noir étaient très proches l'un à côté de l'autre, et pourtant avec un gouffre incroyable entre les deux. C'est ce qu'on appelait la ségrégation. On n'avait pas le droit de se mélanger ni d'être en relation les uns avec les autres. Il y avait une séparation alors qu'ils étaient l'un à côté de l'autre. Peut-être que même ils se touchaient le coude sans le savoir, sans en être conscient. Si près et si loin à la fois. Si proche et si loin à la fois. Un autre exemple, et puis ça se rapproche peut-être un peu plus de cette parabole, c'est des devantures de boutiques de luxe. Je ne sais pas si vous êtes déjà promené dans nos villes en Suisse, il suffit d'aller à Genève, peut-être même aussi quelques-unes à Nyon, mais à Genève. C'est assez frappant de voir qu'il y a quelques rues qui sont couvertes de luxure, d'habits à plusieurs milliers de francs. Et puis vous vous déplacez peut-être 500 mètres plus loin, et puis vous trouvez une misère qui est assez déconcertante. À Genève, c'est assez frappant, parce que si on se balade dans les rues du Rhône, les basses villes, et puis qu'on va 500 mètres plus loin dans le quartier de la Jonction, ah bon, on a deux univers qui sont complètement différents. Et pourtant, côte à côte, dans le même pays, les mêmes personnes se croisent dans la rue, si proches et si loin à la fois. En Suisse, c'est encore un peu discret, mais si vous allez dans d'autres pays, dans d'autres capitales européennes, c'est encore nettement plus flagrant, ce si proche, si loin à la fois, comme dans cette parabole, comme l'homme riche et comme Lazare. Et ce constat, pour moi, il indique clairement, non pas une déprime, parce qu'on se dit de toute manière c'est comme ça, puis rien ne va changer, mais il nous indique clairement la pertinence de ce titre, la force d'aimer. Puis je vais insister sur ce côté de la force, je ne vais pas tellement développer sur ce que c'est l'amour, à part dire simplement c'est d'être en relation les uns avec les autres, je ne vais pas creuser plus ça, mais par contre d'insister ce matin sur le fait qu'aimer, ça requiert une force certaine. Ça requiert même un combat. Force d'être en relation, force d'être là avec l'autre et pas simplement à côté de l'autre dans l'ignorance et la différence totale. Je ne sais pas si cette dame, ça vous dit quelque chose. Elle s'appelle Rosa Parks, puis c'est la première qui a refusé de céder sa place à un blanc. Ça s'est passé en 1955, en novembre. Martin Luther King, il est jeune, il vient d'arriver dans une petite ville du sud des États-Unis, après avoir fait des brillantes études de théologie dans les meilleures universités. Il est tout jeune papa, ça fait à peu près 2 semaines que sa fille est née. Il est tout jeune pasteur, je l'ai dit, dans ce premier poste pastoral. Il a sûrement des projets plein la tête, des activités plein la tête. Et puis, voilà que cet événement, un micro-événement, arrive pile dans sa ville. Et ça vient jusqu'à ses oreilles que cette dame a été condamnée par la police simplement pour avoir refusé de laisser sa place à un blanc comme c'était la coutume de le faire. Je ne sais pas si c'était la loi de le faire, mais peut-être que c'était la coutume en tout cas de le faire. Et là, sa réaction, elle illustre bien cette force d'aimer. Parce qu'il aurait eu toutes les excuses du monde pour se dire, bon, je sais bien que c'est arrivé, c'est venu jusqu'à mon bureau, j'ai peut-être même reçu cette dame, mais bon, j'ai une petite fille de 2 semaines qui ne dort pas bien la nuit, je viens d'arriver dans cette église, j'ai peut-être d'autres activités à faire, puis on me demande pour aller faire des visites, on me demande pour aller faire beaucoup de choses. Je suis jeune, je sors de l'université, finalement j'ai toutes les bonnes raisons de ne pas donner suite à cet événement-là. Grâce à Dieu, je crois que c'est une intervention divine, il décide de donner suite à cet événement-là. Il décide par force de dire, je vais rentrer en relation avec cette dame, Rosa Parks, et à partir de là, il sera complètement pris dans un tourbillon qui ne va plus jamais s'arrêter pour lui. À un moment donné, il a décidé d'avoir la force d'aimer, c'est-à-dire la force d'entrer en relation avec cette dame, plutôt que de se dire, bon, c'est un événement parmi d'autres. Il a certainement su une présence particulière du Seigneur, une inspiration particulière, mais à un moment donné, il a aussi dû faire un choix et être conscient que ce choix réclamait de la force et réclamait un combat. Et je crois que ça nous renseigne beaucoup dans nos vies sur l'image qu'on a de l'amour, qui n'est pas une image mielleuse, un peu romantique, un peu les films de Hollywood qui se terminent bien. C'est un peu une image dans le subconscient qu'on a en général quand on parle de l'amour. Je crois que l'amour chrétien, s'il veut se vivre, immanquablement, il comporte cette dimension du combat. Parce que ce n'est pas naturel d'aller vers l'autre, ce n'est pas naturel d'ouvrir les yeux sur le besoin de l'autre, et ça demande une force qui, pour moi, ne peut venir que d'en haut. Quand on chante comme on a chanté ce matin, puis qu'on se remplit de la présence de Dieu, je crois que ça nous donne justement cette force pour nous dire après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça me donne suffisamment de force pour aller vers l'autre, passer certaines frontières que je peux avoir, et que nous avons tous autant les voir, et se dire, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'arrive à les combattre, ou est-ce que c'est elle qui m'emprisonne? C'est des grandes questions. Et c'est des grandes questions que nous pose cet exemple de Martin Luther King, mais que nous pouvons encore toujours nous poser dans nos vies de tous les jours. Parce que quand on parle de la force d'aimer, je pense que c'est notre mission même sur Terre dont il est question. Aime le Seigneur ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Je vous ai fait le résumé de la vie chrétienne. Il y a une force là qui nous est demandée, une force qui ne demande qu'à être entraînée. Alors je prends des exemples un peu plus concrets. J'ai entendu... Cette semaine, quelqu'un qui, dans la communauté, se retrouve dans son bureau. Il y a trois bureaux, un là. Au milieu, la personne se retrouve et des deux côtés, les personnes s'entendent très bien, mais elles excluent la personne qui est au milieu. Alors, ce n'est pas très, très rigolo pour la personne qui est au milieu. Comment elle doit se comporter par rapport à ces deux personnes qui, entre guillemets, se mettent ensemble, et puis tout à coup, par la basse voix, vous savez, puis on se demande est-ce qu'elle critique, elle ne critique pas, qu'est-ce qu'elle peut bien raconter, elles ne font pas forcément des efforts pour aller vers l'autre. Comment est-ce que là, dans cette situation, en tant que croyant, je me comporte si je ne suis pas conscient de la force qui est nécessaire pour être en relation avec l'autre? Si je n'ai pas conscience de cette force-là qui m'est demandée, et puis qui peut venir d'en haut, je pense que je suis cuit et puis je démissionne. Je me dis, c'est comme ça, je vais devoir souffrir un bon petit moment et puis ça ne va pas aller. Je pense qu'on peut multiplier les exemples hein, dans les open space, ça peut être la même chose, dans des bureaux, dans des rapports professionnels, ça peut aussi être dans des rapports familiaux. Juste un exemple qui me tombe dessus ce matin, on a quelques petits soucis dans notre quartier avec ce que le concierge a appelé des voyous qui sont là. Et puis, il nous dit, il faut qu'on soit vraiment tous ensemble pour les éjecter du quartier parce qu'ils prennent trop de place et puis n'hésitez pas à appeler la police. C'est vrai que moi, je n'ai jamais eu de problème avec ces personnes-là. Puis je me dis, mais comment est-ce que je réagis là? C'est une question qui m'est posée ce matin. Comment est-ce que je réagis là par rapport à ces jeunes qui sont là, qui sont malgré tout des êtres humains, des prochains? En l'occurrence, je n'ai pas de bol, ils sont juste à côté de chez moi. Donc, je suis obligé d'agir. Comment est-ce que je vais agir? Quelle est la force que le Seigneur va me donner pour aller vers eux? Puis je pense que vous avez, j'en suis persuadé, autant de petites anecdotes de ce type-là, où on est confronté à des situations extrêmement concrètes de vie, de tous les jours, où nous avons besoin de cette force d'aller vers l'autre, de cette force d'aimer. C'est donc un combat, et puis ce n'est pas une intervention de type magique de Dieu qui viendrait vers nous puis qui nous dirait « Là, vas-y, je te donne tout ce dont tu as besoin puis je vais montrer à l'autre grâce à mon intervention et il va complètement changer. » Il compte sur nous. Et puis là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a souvent cette représentation qu'on s'attend à Dieu, peut-être pas forcément d'une bonne manière. Et puis la réponse que donne Abraham lorsque... le riche lui demande une intervention miraculeuse, je trouve qu'elle est très interpellante pour nous ce matin. Parce qu'il lui demande finalement d'intervenir, puis comme ça, sa famille va croire parce qu'il y aura quelque chose de spectaculaire dans sa vie. Et vous avez vu ce qu'il lui répond là. L'Abraham lui répond, ils ont Moïse et les prophètes. Puis moi je vous réponds, on a l'exemple de Jésus-Christ, on a l'exemple de témoins qui sont encore très vivants dans nos vies de tous les jours, on a l'exemple de celles et ceux qui nous entourent. Puis l'autre reprit, « Non, Abraham, mais mon père, mais si quelqu'un de chez les morts, quelque chose de spectaculaire, va vers eux, alors là, vraiment, ils changeront radicalement. » Puis Abraham, loin de se laisser démonter, dit, « Mais s'ils n'écoutent pas les prophètes qu'ils ont déjà à disposition, que tout ça, finalement, que c'est une voix qu'ils entendaient peut-être tous les dimanches à la synagogue, ou tous les samedis, je ne sais plus, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. » Même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Donc, ce qui est en jeu ici, c'est l'attitude de notre cœur, c'est l'ouverture de notre cœur et cette conscience que l'on a d'accepter le combat. Et finalement, ça se fait dans une certaine forme de simplicité, d'accepter ce combat, et ça se fait aussi dans une certaine forme de lucidité par rapport à nos limites. Alors, maintenant, on va pouvoir prendre un temps un peu spécial pour, je dirais, le premier objectif, c'est de se dire qu'on est tous des témoins, là où nous sommes placés, dans nos familles, dans nos métiers, dans nos endroits de vie, dans nos quartiers. Et puis, j'ai l'impression que tous, on a besoin d'être encouragés pour véritablement exercer cette force d'aimer, cette force d'être en relation les uns avec les autres. Et puis, dans un deuxième temps, j'aimerais aussi qu'on puisse, à travers ce temps de prière les uns pour les autres, s'encourager par rapport à différentes choses qui pourraient être là dans nos vies, indépendamment quelles qu'elles soient. Alors même là, on se rend compte que c'est plus ou moins facile de se lancer dans cet exercice, parce que peut-être que celle ou celui qui est à côté de vous ce matin, ben, vous ne le connaissez pas très bien, vous ne savez pas exactement qui il est, comment ça va se passer. Il y a plein de raisons de se dire que c'est un peu compliqué de se lancer à l'eau. Alors, il y a deux maîtres mots qu'avec le groupe Baraka, là, on est derrière cette envie pour notre communauté de vivre ces temps de prière, de bénédiction les uns pour les autres. On a vraiment deux mots clés à ce niveau-là, c'est de se dire que ce moment doit pouvoir être vécu en toute liberté. Si vous désirez rester seul, ben simplement qu'on puisse le faire avec un geste de la main. Si on veut le vivre à plusieurs, qu'on le vive à plusieurs. Si on veut simplement échanger, mais qu'on n'est pas encore tout à fait mûr pour prier, ben on ne prie pas. On échange simplement, on apprend à se connaître. Puis si vous voulez prier, ben évidemment, priez aussi en toute liberté, les uns pour les autres, en vous bénissant. Et puis c'est vraiment là, ce côté important, c'est de se dire, on se bénit. Je ne sais pas si je le répète assez souvent, mais se bénir, c'est dire du bien à l'autre. C'est dire que Dieu dit du bien de toi. C'est s'encourager finalement dans nos parcours de vie, dans nos parcours de vie de témoins à la suite du Christ. Alors, je nous invite dans un premier temps à avoir simplement un moment de silence, à recueillir nos pensées, recueillir aussi ce texte que nous venons d'entendre. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, je vous indiquerai que voilà, c'est possible, si vous le désirez, de vous déplacer, d'aller vers une personne peut-être qui est sur votre cœur. Et puis, en toute simplicité, échanger, partager, et puis prier les uns pour les autres. Alors, je nous laisse d'abord un temps pour nous recueillir en nous, devant Dieu. Et ensuite, je donnerai le signal pour le mouvement.